Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. L'émission préparée ce matin par Bertie Bourdon et Nicolas Sendé, mais aussi Mélanie Chalandon et Margot Le Ridon, réalisée ce matin par Alexandra Candilonguet et mise en onde par Cindy Le Grumelec. Premier temps d'une nouvelle série consacrée aux pays nordiques. Avant de nous tourner demain vers la Norvège et sa conquête des glaces, mercredi vers le modèle démocratique de l'Islande et puis enfin jeudi vers les peuples autochtones, arrêtons-nous aujourd'hui sur les pays scandinaves réputés pour leur progressisme social. Royaume au pluriel du progressisme, arrêtez de croire au Père Noël.
Nous faisons confiance à notre gouvernement et nous croyons en notre système de manière peut-être plus forte que certains autres pays. Cela joue peut-être un rôle dans la décision de la Suède de ne pas considérer comme nécessaire l'application de mesures strictes tant que la situation ne s'aggrave pas. Le docteur nous a dit qu'ils ont suivi les protocoles pour les personnes âgées et mon oncle était vieux et affaibli. Ils ne l'ont pas hospitalisé. J'ai l'impression qu'ils ont sacrifié les personnes âgées. Et c'est inacceptable. Tout le monde aurait dû avoir une vraie chance de survivre. C'est simple, je pense que nous avons échoué. De nombreuses personnes sont mortes, et c'est horrible. C'est quelque chose à laquelle nous pouvons tous compatir. Nous n'avons pas été capables de leur venir en aide, et c'est triste. C'est terriblement triste.
Nous avons échoué, disait le roi de Suède à propos de la réponse au Covid lors de son intervention traditionnelle de fin d'année. Au mois d'avril, alors que l'Europe est confinée et voit son économie s'effondrer, la Suède vogue à contre-courant, laissant ses citoyens aux terrasses des cafés, faire ses courses et flâner dans la rue. Pourtant, face à la deuxième vague et au nombre de décès très importants dans le pays, fin novembre on en comptait 6555 pour 10 millions d'habitants, qui est un record dans la région, le Premier ministre a finalement serré la vis, interdisant les rassemblements publics de plus de 8 personnes, demandant la fermeture des bars et des restaurants à 22h30 et renvoyant les lycées vers de l'enseignement à distance. La pandémie a révélé la défaillance de la stratégie sanitaire retenue, mais aussi plus généralement les faiblesses de son système social et solidaire, notamment dans les maisons de retraite où l'on a compté plus de la moitié des décès. En effet, on a accusé le gouvernement d'avoir laissé mourir les personnes âgées, d'avoir opéré une sélection entre les patients pour ne pas saturer les services de réanimation. Un constat qui vient quelque peu écorner l'image de cette Suède, modèle social exemplaire, garant d'un certain ordre moral, promoteur d'un certain idéal progressiste en Europe. Mais qu'en est-il vraiment? Faudrait-il quelque peu nuancer cette représentation que nous avons de ces modèles venus du Nord? Qui sont les gagnants, mais aussi les perdants de cet état-providence scandinave? Comment a-t-il évolué au cours du temps? Et qu'est-ce que la montée de l'extrême droite pourrait changer à ce progressisme? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ce matin Johan Okkant. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes politiste, maître de conférence à l'EHESS. Vous aviez écrit il y a quelques années chez Armand Collin les démocraties scandinaves, des systèmes politiques exceptionnels. Avec nous également Cyril Coulet. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes spécialiste des pays nordiques également. Vous avez été chercheur à l'Institut suédois des relations internationales. On va commencer avec Johan Okkant. Au début de la pandémie, on a beaucoup regardé Johan Okkant du côté des pays du Nord et notamment du côté de la Suède avec cette gestion très peu contraignante. On avait là un modèle tout à fait singulier qui respectait la liberté des individus tout en appelant à la vigilance de chacun. Et pendant un moment, on a même considéré que ces résultats sanitaires étaient tout à fait intéressants. Et puis finalement, on a vu que les choses n'étaient pas si simples, avec un nombre de morts élevé au regard de la population, près de 8000 décès pour un pays de 10 millions d'habitants, donc c'est plus que la France en proportion. Et c'est un échec qui, par ailleurs, a été confirmé par le roi, Carl XVI Gustaf, qui, à l'occasion de sa traditionnelle interview de fin d'année, a eu cette phrase « Je crois que nous avons échoué ». Est-ce que vous diriez que le Covid a effectivement révélé des failles du système suédois qu'on n'avait pas vu jusqu'ici, ou finalement tout ça est parfaitement normal et la Suède paye son tribut comme tous les autres pays, mais son modèle n'est pas remis en cause? Johan Okkant.
Oui, je crois que la réponse est pas si évidente à votre question, mais de fait, ça révèle un certain nombre de choses qu'on savait déjà sur la Suède et que les Suédois savaient assez bien. De fait, un certain nombre de défaillances dans la prise en charge des personnes des personnes âgées dépendantes, un manque d'investissement dans ce domaine-là, des problèmes de coordination entre les différents niveaux administratifs. Je crois que le bilan, il était déjà pour partie tiré au printemps, et donc la Suède a sans doute espéré qu'elle échapperait à une deuxième vague, comme beaucoup d'autres pays. Et bon, maintenant, ils se retrouvent devant une situation qui est compliquée, mais je dirais pas forcément plus compliqué que d'autres pays comme le nôtre ou la Grande-Bretagne. Donc, effectivement, la comparaison est plus dure lorsqu'on regarde les pays voisins. Et c'est ce que vous soulignez aussi. Effectivement, peut-être que la Suède a eu beaucoup plus de difficultés à gérer cette crise que les pays voisins. Après, il est assez difficile de dire si effectivement elle a été aussi plus exposée, mais il y a eu énormément d'erreurs qui ont été commises. Je crois que beaucoup de pays l'ont fait aussi, et le tribut, malheureusement, il se paye en vie humaine, effectivement.
On va revenir dessus, Anne Aucant, mais est-ce qu'il y a, selon vous, l'ambition du côté de la Suède d'essayer une stratégie sanitaire différente, novatrice? Est-ce qu'on s'est dit, on va tenter quelque chose qu'on ne tente pas dans le reste de l'Europe?
Alors, il y a une pléiade de facteurs qui ont joué, en particulier sans doute des facteurs contingents de qui se trouvaient au gouvernement ou à la tête de l'agence sanitaire, ou en tout cas le profil des épidémiologistes qui ont géré cette crise aussi. Mais ils sont pas les seuls. De fait, pour la question de la prise en charge de personnes âgées, la responsabilité revient pour une bonne part aux communes et aux collectivités territoriales, et c'est ce qu'on n'a pas manqué de souligner aussi dans le pré-rapport de la commission qui vient de tomber. De fait, il y a aussi le problème qu'il n'y avait pas forcément les moyens législatifs ou légaux pour confiner plus strictement la population. Cela dit, on aurait pu voter des pouvoirs spéciaux au gouvernement, ce qui a été fait tardivement qu'au mois d'avril, et en fait le gouvernement s'en est relativement peu saisi. Donc il y a des responsabilités qui sont partagées. Mais au mois de mars, on a réagi tardivement et on s'est sans doute un petit peu trompé d'épidémie en regardant cette épidémie avec le profil de contagions précédentes comme le SRAS ou des épidémies de grippe.
Cyril Coulet, cette commission qu'évoquait Johan Aucant, parce qu'effectivement, il y a eu la semaine dernière cette commission Corona nommée par le gouvernement qui a rendu un rapport qui est quand même assez accablant, qui stipule que la stratégie consistant à protéger les plus âgés avait échoué. La commission a conclu que le gouvernement, conduit par le social-démocrate Stefan Löfven, est principalement responsable de la situation. En quoi a-t-il été défaillant, ce gouvernement, puisque comme nous le disait Johan Aucant, il y a pas mal de choses qu'il ne peut pas faire, et notamment en matière sanitaire, où c'est l'agence nationale qui a la charge de tout cela, que par ailleurs sur la question du confinement, d'un point de vue constitutionnel, on peut tout simplement pas imposer un confinement. Alors finalement, en quoi ce gouvernement aurait été défaillant, Cyril Coulet?
Alors, il convient de souligner d'abord que c'est un rapport intermédiaire. On aura encore deux autres rapports qui interviendront sur le traitement de la crise du coronavirus en Suède. Effectivement, vous le dites assez bien, Johan Aucant l'a souligné à juste titre, la culture politique et le régime constitutionnel suédois rendaient ce pays, disons, plus en difficulté que d'autres pour pouvoir traiter cette crise. Et la comparaison notamment avec ces pays voisins, je pense au Danemark, est de ce point de vue-là assez éclairante. On a eu un gouvernement qui effectivement ne pouvait pas facilement restreindre les accès, les gares, les aéroports, les ports, et on peut constater assez facilement qu'il y a eu un grand écart dans la manière dont la crise a été traitée entre des pays qui pourtant sont très proches géographiquement, et a priori on pourrait le considérer, en tout cas vu de France, très proches culturellement. Je pense que cette crise elle vient aussi mettre en lumière la singularité des pays nordiques, qu'on a toujours pensé comme étant un bloc homogène et uniforme. Et on voit bien que le traitement de la crise sanitaire a été très différent. Maintenant, est-ce que le gouvernement aurait pu faire plus et mieux? Sans doute aurait-il fallu qu'il ait plus rapidement les moyens donnés par le Parlement pour pouvoir le faire, et qu'ensuite il puisse s'en saisir, mais ça n'était pas dans la culture politique suédoise.
Mais justement, Cyril Coulet, par exemple, on va prendre un cas très concret. La question des maisons de retraite. Aujourd'hui, ce qu'on dit en Suède, c'est que d'une certaine manière, le gouvernement a laissé mourir les personnes âgées. Quelle responsabilité dans cette hécatombe? Je crois que la moitié des décès ont eu lieu dans des maisons de retraite. On a sacrifié les personnes âgées?
Je n'irai pas jusque-là. Je ne pense pas qu'il y ait une volonté consciente du gouvernement d'aller sacrifier une partie de la population. Je vais rejoindre ce qui a été dit, à savoir qu'on voit bien dans les échanges qui sont ressortis, dans les correspondances entre Anders Tegnell et son prédécesseur, qu'il y a eu une sous-estimation en fait de ce qu'était le coronavirus et qu'on la stratégie de l'immunité collective a été poursuivie plus longtemps par l'agence de santé publique en Suède que dans d'autres pays. Et de ce point de vue-là, typiquement, on voit bien que le Royaume-Uni avait renoncé beaucoup plus tôt à cette stratégie qui était la même, qui était poursuivie à l'origine. Tout n'appartient pas au gouvernement à la matière. La question, effectivement, des maisons de retraite, c'est de la compétence des communes. La question de la stratégie arrêtée en matière de santé publique, c'est l'agence de santé publique suédoise et c'est une agence indépendante. C'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à concevoir finalement dans notre représentation administrative française, puisque nos agences administratives indépendantes ne sont pas si indépendantes que ça. Là, on a quand même un pouvoir discrétionnaire qui est très fort entre les mains de ces entités administratives. Et donc, il faut bien chercher des responsabilités, et en l'occurrence, les responsabilités politiques sont à chercher au niveau peut-être plus gouvernemental, parce que c'est selon les institutions élues qui sont les plus éminentes. Mais je pense que ça met plutôt en lumière une difficulté dans le système institutionnel suédois qui est peut-être plus en difficulté que d'autres pour surmonter ce type de crise, dans la mesure où finalement on n'a pas un système qui est fortement centralisé, contrairement à la France, et où les acteurs ont plus de marge de manœuvre.
Oui, et précisément cette décentralisation, on a longtemps dit que ça faisait la force, en tout cas que c'était l'une des forces de ce fameux modèle scandinave, même si j'entends parfaitement qu'en réalité, modèle scandinave, il n'y a pas, en tout cas pas au singulier. Johan Okant, parlons peut-être de la question de l'hôpital, parce que ça va nous permettre de regarder au fond la gestion des affaires, et notamment des affaires économiques sur le long terme des gouvernements, parce qu'aujourd'hui, on a un vrai problème de santé, d'hôpitaux en Suède, comme chez nous évidemment en France. Il faut repousser les opérations non urgentes, alors que précisément l'un des arguments de l'agence de santé, c'était de dire que avec cette stratégie, on serait pas obligé de repousser les opérations non urgentes et qu'on n'aurait pas de crise à l'hôpital. C'est tout à fait l'inverse qui se passe. Non seulement parce que on a des problèmes au niveau du matériel, mais surtout parce que on a des personnels de santé qui sont très peu nombreux et qui sont à bout de souffle. L'État, Johan compte de cette crise du système hospitalier aujourd'hui et les raisons de ces difficultés, parce que depuis les années 90, on sait que la Suède a beaucoup ouvert le secteur de la santé et de l'éducation, et on se demande si évidemment la crise de l'hôpital actuel n'est pas aussi le fruit de cette libéralisation du secteur. Johan Okant.
Oui, juste avant, je voulais rajouter un tout petit point sur ce que avait été dit auparavant. Cette crise, elle montre aussi les tensions fortes entre les différents pays, puisque on aura l'occasion d'y revenir, mais avec le modèle de circulation libre à l'intérieur de la région nordique, on a de plus en plus de tensions. En particulier, on les voit maintenant entre la Norvège et la Suède, où les citoyens suédois qui vivent ou travaillent en Norvège sont victimes de d'harcèlement maintenant dans certains domaines. Et donc ça commence à devenir assez problématique dans la longue durée de cette crise épidémique. Mais sinon, pour revenir à la question de l'hôpital, effectivement, on peut regarder ça de manière différente. Avec le plus faible nombre de lits par habitant de l'OCDE, la Suède s'en est plutôt pas trop mal sortie, on va dire. Si on compare à la France, on parle moins de crise hospitalière en Scandinavie qu'en France depuis plusieurs décennies. Donc c'est pas vraiment un refrain, quand bien même effectivement le secteur hospitalier a été très largement et très profondément restructuré, libéralisé pour une part, c'est-à-dire avec beaucoup de phénomènes de contractualisation à l'intérieur de ce secteur, y compris aussi pour les soins aux personnes âgées. Voilà. Bon, par ailleurs, on a aussi une prise en charge à domicile des personnes âgées qui est nettement meilleure que dans, dans un certain nombre, d'autres pays, plus institutionnalisée, quand bien même, là aussi, le problème des prestataires peut devenir sensible, et donc, en particulier, la rémunération, la qualité des compétences des gens qui travaillent à domicile. Mais ceci dit, effectivement, là, quand vous parlez de la mortalité totale au sein des maisons de retraite, il faut compter aussi les personnes qui sont mortes à domicile. Mmh. Et donc, au total, ça fait plus de la moitié de la mortalité totale. Mmh. Et donc, le secteur hospitalier a pas trop mal réagi, mais effectivement, il y a des problèmes de concentration des effets du virus dans certaines grandes villes, en particulier dans la région de Stockholm, ce qui fait que la congestion est assez forte. Et par ailleurs, il y a eu aussi un effet de départ d'un certain nombre de personnels de santé qui ont quitté leurs fonctions, soit pour des raisons de maladie, de fragilité, de vulnérabilité, soit de manière définitive. Donc les capacités de recrutement dans le secteur sont limitées, en Suède comme pour les pays voisins d'ailleurs.
Et est-ce qu'aujourd'hui c'est une question qui fait débat justement en Suède? On se dit peut-être que au nom d'un certain pragmatisme économique, peut-être n'aurions-nous dû ne pas autant libéraliser le secteur hospitalier ou pas du tout?
Oui, alors libéralisation ou transformation ambulatoire, hein, ce qui sont deux choses différentes. Mmh. Et effectivement, on a beaucoup rationalisé le secteur pour que les patients y passent le moins de temps possible. Et c'est peut-être sur ses capacités en termes de lits, hein, et de lits spécialisés en particulier, que la plupart des pays, et c'est pas seulement la Suède, seront amenés à réfléchir, mais peut-être la Suède un peu plus que d'autres, puisqu'elle avait beaucoup, comme le Royaume-Uni d'ailleurs, beaucoup plus drastiquement limiter son nombre de lits hospitaliers. Donc effectivement, alors la question se pose curieusement pas énormément dans les médias actuellement. Hein. Donc c'est probablement la preuve aussi que il y a encore un peu de marge de manœuvre avant qu'on arrive à l'os, si j'ose dire. Mais effectivement, c'est pas le point central qui est évoqué par rapport à la question en particulier des services de prise en charge des personnes âgées.
C'est quoi le point central?
C'est celui-là plutôt, hein. Et là effectivement, c'est celui qui semble être la grande défaillance, et sur lequel la commission qui est en charge de réfléchir aux responsabilités dans la crise va beaucoup se pencher. Donc on aura d'autres rapports. Mmh. Souligné Cyril Coulet qui interviendront, et je pense qu'on voit que le début de cette réflexion.
Après, ouais. Cyril Coulet, l'autre point central, si je puis dire, dans cette affaire, c'est la question de la liberté. Parce que on l'a vu d'ailleurs, si on a fait ce choix du côté de la Suède, c'est qu'il y a un attachement extrêmement prononcé à la liberté. On a un libertarianisme qui est profondément ancré dans la société. On n'imagine absolument pas contraindre des gens dans leur mobilité. D'ailleurs, on le disait tout à l'heure, on ne peut pas le faire. Imposer un état d'urgence, c'est tout simplement constitutionnellement impossible. Et pourtant, on a vu que le gouvernement a dû s'adapter, alors tardivement, et puis là à nouveau on a un projet de loi sur la table qui est au Parlement et qui pourrait être adopté au printemps. Il s'agit d'un texte qui pourrait permettre de limiter la liberté de mouvement des Suédois et même imposer des mesures de confinement, comme par exemple la fermeture de restaurants ou de bars, de magasins non essentiels comme on dit. Est-ce que vous pensez d'abord, Cyril Coulet, que ce texte va passer, il y aura aucun problème? Et de façon plus générale, est-ce qu'il remet un peu en cause, est-ce que cette crise-là remet un peu en cause ce culte de la liberté individuelle? Est-ce que le libertarianisme dont on dit qu'il est extrêmement fort dans ces royaumes nordiques, est-ce qu'il pourrait être un peu remis en cause, Cyril Coulet?
Bon, d'une part, sans faire de politique fiction, pour l'instant, les textes qui ont été présentés au Parlement et visant à donner plus de pouvoir au gouvernement ont été adoptés. Mais ils le sont aussi...
Mais c'est des mesures qui sont durables, temporaires, pardon.
Temporaires, tout à fait, et soumises au vote du Parlement. Donc on verra comment les différents groupes parlementaires vont s'emparer de la question et quel rôle le Parlement conservera, puisque c'est un enjeu qui est peut-être plus prégnant en Suède qu'il ne l'est en France, à titre de comparaison. Mais il y a en tout cas une pression, un environnement international qui aujourd'hui... incite en tout cas à considérer que des mesures de protection peuvent être prises et visent à donner plus de prérogatives aux exécutifs. C'est pas une exception, il y a de ce point de vue-là une exception suédoise, et une exception suédoise à nouveau qui est d'autant plus mise en lumière lorsqu'on la compare avec ses voisins des pays nordiques. Et il y a Johan Ockrent l'a souligné à juste titre, il y a un sentiment d'appartenance à une communauté nordique qui fait que ce qui se passe dans les pays voisins est une source, en tout cas, de questionnement, d'interrogation, de partage d'expérience entre ces pays et qui peut parfois être à l'origine, effectivement, d'évolutions législatives ou réglementaires. Donc, sur la question ensuite du rapport à la liberté individuelle, il y a effectivement un attachement profond aux libertés fondamentales. La Suède a jusqu'ici été finalement relativement épargnée par des menaces à la sécurité publique qui étaient très importantes. Il y a eu des attentats en Suède, mais pas du même ordre que ce qui a pu se produire dans d'autres pays. Et donc la question n'avait pas, en définitive, à se poser. Je pense que cette crise sanitaire peut être effectivement l'occasion, en tout cas, d'une interrogation pour la Suède et d'une interrogation qui se fera au miroir de ce que ses voisins ont pu adopter comme mesure et des résultats qu'ils auront obtenus dans le traitement de la crise sanitaire.
Eh bien, écoutez, vous parliez de la France, vous parliez de cette spécificité nordique, cet attachement à la liberté. Je propose d'écouter Emmanuel Macron qui parlait, alors là c'était pas de la Suède mais du modèle danois, mais vous allez voir qu'il y a des points de contact assez clairs. Je propose de l'écouter, c'était en août 2018 et puis on en reparle tout de suite.
Alors bien sûr, il ne s'agit pas d'être naïf. Ce qui est ici possible est lié à une culture. Un peuple marqué par son histoire, et ce peuple luthérien qui a vécu les transformations des dernières décennies n'est pas exactement le Gaulois réfractaire au changement, mais encore que. Nous avons tous quelque chose en commun, cette part d'Européens qui nous unit, et je crois ici pouvoir vous dire que ce modèle danois nous inspire beaucoup.
Voilà, ce modèle danois nous inspire beaucoup. En fait, c'est tous les modèles du Nord qui nous inspirent beaucoup. Alors, on avait énormément, nous, polémiqué, débattu autour de cette expression du gaulois réfractaire, mais on avait moins débattu autour du luthérien intrinsèquement adaptable et ouvert à la réforme Johan Ockrent. Cette question de la représentation de ces modèles, c'est quelque chose sur lequel vous travaillez énormément. Quand Emmanuel Macron fait référence à ces luthériens, à cette théologie protestante qui s'est beaucoup développée dans l'ensemble de la région depuis le XVIe siècle, en quoi est-ce qu'il vous semble qu'on a là peut-être un peu d'essentialisme? Est-ce qu'effectivement le protestantisme participe de cette identité politique, de ce modèle social scandinave que l'on regarde si jalousement, Johan Ockrent?
Voilà, c'est la question à 1 million d'euros hein, ou de couronnes.
Alors on les a pas, mais on va le faire gratuitement.
Voilà, moi je sais pas très bien à quoi Emmanuel Macron fait référence, sinon des ouais. Raccourcis quand même assez sommaires. Mmh. Et de fait, on pourrait passer beaucoup de temps à essayer de réfléchir aux racines protestantes de ces formes d'État providence ou de solidarité, de communauté, mais aussi d'individualisme. Hein. Il faut aussi le rappeler, une très forte prégnance de l'individualisme dans ces pays-là, et donc cet attachement à la fois à l'État et à l'action de collective, mais aussi au respect de l'individu. On peut retrouver hein, ces deux éléments dans la gestion de la crise actuellement. Clairement, à la fois le sens du respect des autorités nommées ou élues, de l'expertise, et d'autre part la responsabilité que l'on place sur les individus, la façon aussi de communiquer par ailleurs pour ne pas induire trop de panique. De changer de décision trop rapidement, ce qui effectivement ne serait pas dans l'intérêt de la communauté. Mmh. Mais moi, je me refuse à en faire une lecture trop essentialiste. Et le problème de ces références ou représentations des modèles, c'est qu'elles ont agrégé énormément de choses au cours du temps. On pourrait en faire une lecture généalogique et on y retrouverait depuis le début du XXe siècle, en réalité bien avant l'avènement de la social-démocratie au pouvoir, des choses qu'on a parfaitement oubliées en fait, hein, qui sont qui se sont transformées au cours du temps, ce qui fait qu'on ne sait pas forcément bien à quoi on fait référence lorsqu'on parle de modèles nordiques. Mmh.
Mais vous parlez d'individualisme, et en même temps, c'est un individualisme qui va de pair avec un vrai souci de l'égalité. Parce que quand on regarde ces pays, alors je vais moi aussi me permettre de réduire un peu, mais disons ces pays du Nord, quand on regarde les indicateurs, on voit que ça fait partie des nations les plus égalitaires au monde, avec des revenus par habitant qui sont assez élevés, qui révèlent évidemment une certaine prospérité, mais on est sur des territoires assez égalitaire. C'est d'autant plus remarquable que ça n'a pas toujours été le cas. On a eu des phases de profonde inégalité, avec des pauvretés extrêmement ancrées dans le monde rural, dans le monde ouvrier. Donc il y a quelque chose quand même d'assez, pour nous en tout cas, d'assez étonnant et qu'on a envie de regarder, de comprendre, de décortiquer pour peut-être évidemment les imiter. Mais il y a un vrai souci de l'égalité quand même.
Oui, non, c'est certain, et en même temps, ça s'est construit dans la longue durée, de façon différente selon les pays, hein, puisqu'ils sont pas tous la même trajectoire. La Norvège est pratiquement dénuée d'aristocratie parce qu'elle était sous un joug colonial pendant très longtemps, indépendante seulement en 1905. La Suède était un pays beaucoup plus aristocratique, et le Danemark aussi. Donc en fait, la conversion vers plus d'égalité sociale, de revenus, et puis ensuite d'égalité homme-femme, la dernière étape du processus. Encore qu'il faudrait rajouter aussi la question de l'égalité entre les citoyens et puis les ressortissants étrangers. Ça, c'est un dernier point qu'on abordera sans doute.
On va le faire.
De fait, il y a des différences assez importantes entre ces pays. Ces degrés d'égalité sont parvenus peut-être à leur sommet dans les années 60-70. Et depuis, on a vu... les années 80, une tendance à l'accroissement des inégalités, en tout cas sur le plan des revenus. Et effectivement, le chapitre sur lequel ça a continué de s'améliorer, c'est probablement dans les rapports entre les hommes et les femmes. Et effectivement, il y a un attachement important à cet égalitarisme, mais qui n'est pas non plus si viscéral que l'on croit, puisqu'on voit bien, l'OCDE a suffisamment remarqué que la Suède avait été le pays où les inégalités de revenus se sont le plus rapidement accrues depuis les années 1980. Néanmoins, dans les rapports de l'OCDE, on voit que ces pays continuent, sur le plan de l'égalité et de la réduction de la pauvreté également, à avoir de bonnes performances, même si la France ne démérite pas, hein, par exemple, en matière de pauvreté des personnes âgées, la France fait mieux que la Suède.
Ouais, donc faut pas rêver. Cyril Coulet, on a quand même nous cette idée que le progrès social c'est plutôt quelque chose qui est porté par la gauche, et on imagine aussi que ces pays scandinaves n'ont pas toujours été dirigés par des gouvernements de gauche. Alors jusqu'où est-ce qu'on peut corréler social-démocratie et progressisme, toujours pareil, dans les pays nordiques, hein, est-ce qu'il y aurait pas, au-delà des clivages politiques, une propension, tout parti confondu, j'allais dire, à porter des transformations sociales, sociétales, quels que soient les partis politiques? Cyril Coulet.
Alors effectivement, on a quand même beaucoup associé progrès social et social-démocratie, et sans doute pas à tort, dans la mesure où quand même la prédominance politique de la social-démocratie a été assez forte dans certains pays, et particulièrement forte en Suède, où finalement les gouvernements dits de droite ou dits bourgeois en suédois sont apparus au pouvoir finalement à partir des années 80 et de manière plus épisodique. Cela étant, il y a aujourd'hui un relatif consensus économique sur le traitement des questions économiques. Il y a une libéralisation assez forte de l'économie dans les années 90 qui a été impulsée par les sociaux-démocrates et sur lesquels aujourd'hui il n'y a pas grand débat. Hormis des points minoritaires, des points de tension, comme la question effectivement de la privatisation de l'école que vous avez évoquée tout à l'heure. En revanche, il y a, je crois, une certaine fierté suédoise qui a pu exister, à être dans les comparaisons internationales, à ressortir comme étant un pays singulier. Et cette singularité qui ne s'est pas retrouvée d'un point de vue économique a pu se retrouver d'un point de vue sociétal. Et il y a eu effectivement ces dernières années une volonté, en tout cas, d'aller se mettre à l'avant-garde d'un certain nombre de thématiques et peut-être de se présenter comme étant, en tout cas, une source d'inspiration ou une manière de se représenter au monde qui était un peu différente.
Vous pensez à quoi ?
Je pense à la question sur la prostitution, je pense à la question finalement de l'égalité entre les genres, je pense à la question de l'immigration, où il y a eu parfois une politique très active, qui était aussi une politique où, vu de l'extérieur, ressemblait parfois à une politique de promotion aussi de l'image de ces pays à l'international. Ce sont des pays qui savent qu'ils sont, en tout cas, qui sont dans les études internationales, qui sont observés, regardés, et qui ont un souci aussi de ce qu'ils peuvent incarner ou apporter à l'extérieur. Donc il y a une tradition de l'avant-garde, je dirais, qui a nourri notre imaginaire des pays nordiques, très clairement, en amalgamant parfois des politiques publiques, des sociétés très différentes. Johan Aucand l'a dit et on ne peut que le souligner, on a une très forte hétérogénéité en définitive des pays nordiques qui, vu de France, nous semblent parfois tous les mêmes, et on a tendance à prendre le meilleur de ce qui nous intéresse dans ces sociétés, en oubliant que ce qui est valable au Danemark ne l'est pas forcément en Suède, et que pour tout ce qu'il y a de positif, il y a nécessairement quelque chose qui l'est un peu moins. Et on a eu tendance à vouloir regarder que le meilleur.
La question est de savoir si cet avant-gardisme, cette capacité à innover, c'est seulement des coups d'éclat ou c'est quelque chose qui reste durablement dans la société. Johan Aucand, on pourrait évoquer aussi la question du revenu universel. Nous, on en avait beaucoup parlé ici lors de la dernière campagne. C'était quelque chose qui était beaucoup d'ailleurs évoqué du côté de la gauche. C'est quelque chose qu'on a essayé, expérimenté. Je pense notamment à la Finlande. Et ce qui est intéressant, c'est que chez nous, c'était la gauche qui le portait. Du côté de la Finlande, c'est un gouvernement de droite qui l'a expérimenté. Ce qui est d'autant plus intéressant. D'ailleurs, peut-être pourrions-nous regarder les arguments qui étaient mobilisés à l'époque, mais la question est de savoir, est-ce que cette expérience-là, elle a été généralisée, ou on s'est contenté de tenter, et puis on s'est ensuite arrêté, Johan Aucand ?
Oui, c'est la deuxième option qui est la bonne. Hein. L'expérience finlandaise a été assez largement circonscrite. Elle n'a pas eu d'écho ou peu d'écho dans les autres pays qui sont traditionnellement pas des aficionados de ce genre de choses. On est quand même sur un lien à la valeur travail qui reste très fortement ancré justement dans les cultures luthériennes, pour faire vite.
Mais alors pourquoi est-ce qu'on a mis en place ce revenu de base inconditionnel ?
On a cherché à, en fait, les motivations du gouvernement finlandais l'époque était essentiellement de voir si on pouvait réduire l'ampleur de la couverture sociale et donc les réformes, en tout cas les dépenses qui étaient consacrées à la protection sociale, en mettant en place une sorte de revenu unique qui permettrait de compiler une partie des aides sociales traditionnelles. Donc c'était plutôt un programme de droite que de gauche de ce point de vue. Le revenu était quand même assez faible. L'expérience n'a pas été vraiment menée correctement jusqu'à son terme. Mais par contre, comme le soulignait bien Cyril Coulet, on en a fait un instrument de diplomatie publique et de d'image positive qui a été beaucoup commenté à l'extérieur. Ceci dit, je voudrais quand même nuancer sur ce point-là. Ce qui change par rapport à une certaine époque, c'est que les pays nordiques sont moins soucieux aujourd'hui d'avoir parfois une image négative à l'extérieur, et en particulier dans le domaine de l'immigration. Et si on prend le cas du Danemark, c'est tout à fait flagrant, puisque avec la crise de 2015, la crise migratoire, le Danemark n'a pas du tout hésité à mettre en place des mesures qui l'ont mis en porte-à-faux sur un plan juridique par rapport aux communautés européennes, et d'autre part a même diffusé une publicité dans les pays d'origine de l'immigration, désincitant les migrants à venir au Danemark. Donc de fait, sur un plan d'image internationale, c'était pas forcément très très diplomatique.
Vous parliez du Danemark, justement, direction un ghetto danois, je mets des guillemets.
Selon la politique du gouvernement sur les ghettos, nous encourons une double peine si nous commettons un délit dans le quartier. Si vous créez des problèmes, vous pouvez perdre vos allocations sociales. Vous pouvez aussi être chassé de votre appartement si vous êtes assez stupide pour commettre un crime.
Voilà, un témoignage qui avait été recueilli par la RTBF en novembre 2019, parce qu'effectivement au Danemark, il y a une loi qui a été votée en janvier 2019, qui avait fait énormément polémique, dont l'objectif était d'éradiquer les ghettos, je mets des guillemets, des sociétés parallèles qui trouent la carte du Danemark. C'était l'expression qui avait été utilisée à l'époque par le Premier ministre danois. C'est ce que vous disiez un peu tout à l'heure, Johan Okand, c'est que la question du progressisme, elle a des limites, c'est-à-dire que quand on regarde la question migratoire aujourd'hui, même si certains pays, on pense évidemment à la Suède, ont été extrêmement généreux, on a aussi des situations où de plus en plus, on est de moins en moins généreux, précisément, Johan Okand. Voire on est carrément discriminatoire, là, sur cette loi-là au Danemark, c'est le cas.
Alors c'est pas la première. Hein. De fait, la transformation du Danemark de ce point de vue, c'est opéré sur une bonne vingtaine d'années, avec la montée aussi d'une extrême droite nationaliste. Il faut quand même rappeler qu'en 1983, le Danemark avait voté une législation sur l'asile qui était l'une des plus progressistes au monde. Et de fait, petit à petit, on s'est démarqué de cette ligne-là, alors que la Suède l'a fait nettement moins vite. Hein. Bon, la crise migratoire de 2015 a été un moment de choc important pour toute cette région, mais il faut le savoir ou le rappeler, la Suède a reçu en proportion de son nombre d'habitants le plus de réfugiés pratiquement en Europe, et c'était un choc assez important. Donc c'est vrai qu'effectivement la législation s'est beaucoup plus durcie au Danemark que dans les autres pays, depuis effectivement 2016, on a mis en place des restrictions importantes à la réunification familiale en particulier. On a mis en place aussi des mesures assez drastiques ou draconiennes pour pouvoir, au besoin, récupérer des avoirs des migrants pour payer en fait les frais de leur séjour sur le territoire. Donc toutes ces mesures ont moins fait polémique au Danemark qu'à l'extérieur. Il y a un consensus quand même assez élevé dans ce domaine, même s'il y a quand même des associations qui militent contre ce type de politique. Mais sur le plan à l'intérieur de la scène politique, il y a quand même un consensus assez fort. Et ça, c'est quelque chose qui s'est installé progressivement avec la montée de l'extrême droite. De fait, la Suède a été moins rapide dans ce processus. Effectivement, l'extrême droite y est apparue plus tardivement, mais elle va dans le même sens. Ceci dit, les politiques migratoires suédoises et danoises continuent de se distinguer très fortement, y compris après le traitement des migrants sur place, quand bien même il y a aussi un certain nombre de choses à dire du côté suédois.
Cyril Coulet, peut-être encore un mot et puis on accueillera une nouvelle invitée. Cette question de l'immigration, de la montée de l'extrême droite, c'est vrai qu'on a eu ces dernières années, pour ce qui est de la Suède, disons la dernière décennie, une montée en puissance des forces d'extrême droite. Est-ce que elle s'est faite seulement, j'allais dire, sur le terreau de ces nouvelles vagues migratoires, ou est-ce que c'est aussi cette montée en puissance le révélateur peut-être d'une fragilisation de cet État-providence qui ne serait plus aussi solide, Cyril Coulet?
En tout cas, il y a dans le discours de l'extrême droite une volonté d'essentialiser finalement un peuple suédois, de lui donner une définition, une connotation et de l'enfermer dans une représentation et dans un temps. Donc il y a quelque chose d'extrêmement conservateur et de réactionnaire dans cette définition de ce qu'est la nation. Johan Okand a souligné à juste titre combien en définitive le Danemark est allé beaucoup plus vite et beaucoup plus loin sur des mesures très restrictives en matière migratoire, en lien aussi avec une présence de l'extrême droite au Parlement qui est plus ancienne et sur des niveaux de scores électoraux qui lui sont en définitive suffisants pour lui permettre d'avoir la main sur l'agenda politique, quand bien même l'extrême droite n'est pas au gouvernement ou n'est pas majoritaire. C'est une chose que, dans notre système politique, on a du mal à comprendre, c'est que des partis pivots à 15 ou 20%, 25, 30% deviennent rapidement des partis qui ont une capacité à structurer en partie le débat politique, quand bien même ils ne sont pas au gouvernement. Ce qui est le cas effectivement aujourd'hui de l'extrême droite au Danemark depuis maintenant plusieurs décennies, et c'est qui commence à être le cas en Suède et qui produit des effets. Et l'un de ses effets, c'est que dans l'essentialisation d'une nation, quand on veut faire d'une nation un peuple et lui donner une base ethnique, il y a bien sûr la construction, je dirais, d'une représentation mythique de cette nation, et il y a aussi la propension à avoir une forme de définition d'une altérité qui devient radicale. C'est-à-dire l'autre est, par définition, radicalement autre et ne peut pas prétendre à rentrer dans cette communauté. Et du coup, il y a des tensions qui se jouent autour de l'allocation des prestations. Et dans un système qui n'est pas un système bismarckien comme en France, où de cotisation, mais un système de prestations basé sur l'impôt, on a eu des campagnes électorales qu'on ne voit pas chez nous, où on met en concurrence des personnes issues d'immigration portant les burkas et avec un landau qui va courir face à une personne avec un déambulateur pour essayer d'aller activer la manette de l'accession.
Ouais, on se souvient effectivement de ce clip vidéo qui avait fait énormément polémique. On est avec vous Cyril Coulet et vous Johan Okand dans cette nouvelle série consacrée aux pays nordiques. Aujourd'hui on parle de ces royaumes du progressisme. On se dit qu'a priori progressisme rime avec pacifisme, mais les choses sont pas si simples. On va le voir en particulier en ce moment où le pays se réarme en Suède et en particulier sur l'île de Gotland en pleine mer Baltique.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
We are seeing a decreasing security situation within the Baltics.
Nous constatons une détérioration de la situation sécuritaire dans les pays baltes. De nombreux exercices sont organisés, il y a une Russie forte, une activité militaire beaucoup plus intense qu'auparavant. Nous voyons ce qui se passe en Ukraine. Cette détérioration est la raison pour laquelle nous reconstruisons notre armée.
C'est bien qu'ils reconstituent une force militaire ici sur l'île. Non pas que je pense qu'il y ait une menace imminente de la Russie en particulier. Je ne pense pas que cela arrive, il n'y a pas de raison. Mais si quelque chose arrive ailleurs dans le monde, il peut y avoir un effet boule de neige et cela pourrait nous affecter.
Voilà, on entendait le commandant du régiment blindé de Gotland qui expliquait l'amplification de la présence militaire à Gotland. Il était au micro de l'AFP et puis on entendait également un habitant justement de l'île rassuré de cette présence des militaires. Bonjour Barbara Kunz.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes politologue à l'université de Hambourg. Je disais, a priori, progressisme rime avec pacifisme. Pendant longtemps, ça a été le cas. Dans le royaume de Suède, on avait élevé la neutralité au rang de doctrine depuis très longtemps. Déjà à l'époque des guerres napoléoniennes. Pendant la Seconde Guerre mondiale, on a eu une Suède qui s'était déclarée non belligérante, y compris quand le Danemark et la Norvège ont été à leur tour attaqués par l'Allemagne nazie. Et puis on a bien sûr la période du lendemain de la guerre, de la guerre froide, où là il a fallu, c'est vrai, s'organiser pour faire face à la menace, mais sans pour autant tourner le dos à ce principe. Quand on entend là effectivement cette gaz-caserne de Visby sur l'île de Gotland accueillir à nouveau de plus en plus de militaires, quand on voit ces simulations de grande ampleur, est-ce qu'il faut comprendre que en Suède on a rompu, ça y est, avec ce principe de neutralité, Barbara Kunz?
Non, je ne pense pas qu'on ait rompu avec le principe de neutralité, mais qu'en réalité, on est en train d'observer un retour à la logique de la guerre froide. Il disait, bon, on est pacifiste et on n'est pas partie d'aucune alliance militaire, et donc on doit être capable de nous défendre. Et c'est cette logique-là qui revient. La politique de défense suédoise est clairement basée sur l'idée qu'il existe une menace russe. Et au vu de la position très stratégique de cette île, il y a un certain...
Une certaine inquiétude. Mais elle est légitime? Elle est légitime, Barbara Kunz? On vous entend pas très bien, mais pour le moment, on y arrive. Elle est légitime? La menace réelle de Moscou, il y a des raisons de penser, effectivement, que cette Russie pourrait tenter des aventures belliqueuses dans la zone?
Alors ça, c'est une question qui est effectivement très compliquée à analyser. On ne connaît pas les intentions de Moscou. Mais ce qu'on sait, c'est que par le passé, il y a eu des incidents, voire des conflits qui justement donnent raison de ne plus penser à un partenariat avec la Russie. Il y a eu l'annexion de la Crimée en 2014, qui a vraiment été l'événement qui a causé le tournant dans la politique de sécurité suédoise. Il y a assez régulièrement des petits incidents qui font pas forcément apparition dans les médias dans la région de la mer Baltique, avec des intrusions dans l'espace aérien d'autres pays. Donc, je pense qu'il y a effectivement des raisons d'être vigilant.
Alors, les raisons d'être vigilants, on les comprend. Donc, quelle décision on a pris? Parce qu'il y a quelques jours, il y a une nouvelle loi qui a été votée qui prévoit une augmentation du budget de la défense. Est-ce qu'on a un peu une idée de l'ampleur de cette augmentation, du niveau de réarmement justement de la Suède pour faire face à cette menace russe?
Alors, c'est une augmentation qui est assez conséquente, qui est de l'ordre de 40%. Donc voilà, on parle de beaucoup d'argent. Mais en réalité, ça s'inscrit dans la continuité des décisions prises déjà en 2015. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin de la guerre froide, en Suède, on est tellement parti sur l'idée de la fin de l'histoire. Et on a grosso modo aboli la défense territoriale en se disant, voilà, la défense du territoire suédois, c'est obsolète. Maintenant, on va pouvoir se concentrer sur des opérations comme, par exemple, en Bosnie. C'était vraiment ces scénarios-là pour lesquels on planifiait les choses. Donc, on a aboli le service militaire, par exemple. Et bah, voilà, il ne restait plus grand-chose des forces armées suédoises. Et comme je vous le disais, l'annexion de la Crimée en 2014 a vraiment été le tournant. On a décidé de réinvestir et de surtout réfléchir à ce scénario de devoir défendre le territoire suédois. Et donc cette nouvelle loi de défense qui a été votée la semaine dernière s'inscrit ou poursuit cette logique-là.
Ouais, augmentation de 40% du budget de la défense d'ici 2025. C'est seulement la Suède ou c'est aussi la Finlande et la Norvège?
Alors, c'est tous les pays nordiques, avec la Suède qui est peut-être, je dirais, la plus radicale quand il s'agit de parler d'une menace russe. Et donc, c'est en Suède qu'on voit le plus de changements. Mais il faut aussi comprendre que l'ampleur des changements en Suède est aussi par rapport à l'ampleur de l'abolition des forces armées après la guerre froide. La Finlande, par exemple, n'est jamais allée aussi loin. La Finlande, pour donner un autre exemple, n'a jamais aboli le service militaire obligatoire et donc n'a pas eu besoin de le réintroduire.
Oui, le réintroduire, vous faites référence à la Suède qui, elle, effectivement, l'a réintroduit. Il avait été supprimé en 2010. Alors, il n'est pas obligatoire, mais il a été réintroduit. Peut-être une réaction avec nos deux invités. D'abord, Cyril Coulet, vous connaissez bien ces questions-là, puisque vous avez été chercheur à l'Institut suédois des relations internationales. On a là, effectivement, trois acteurs qui sont en train de réinvestir le champ de la défense, qui, par ailleurs, mettent aussi en place un nouveau cadre de coopération. On a eu un nouveau partenariat entre ces trois pays, Finlande, Norvège et Suède, dans le domaine sécuritaire. Est-ce qu'au fond, on est dans un moment où cette menace russe, parce que clairement c'est ça dont il est question, pourrait faire émerger une sorte de bloc scandinave sur le plan militaire qui n'existait pas jusqu'ici, Cyril Coulet?
Ça semble quand même difficile d'envisager qu'il y ait un cavalier seul, le Scandinave, sur cette question de sécurité. On sait l'attachement qu'il y a eu pour des garants extérieurs. La Suède, même si elle se proclamait neutre, et il y a eu une commission d'enquête parlementaire qui a été conduite sur cette question en 2002, hein, de mémoire, la commission d'enquête faisait ressortir combien la Suède était intégrée à ce qu'on pourrait appeler un système occidental de sécurité. Ces appareils étaient équipés des systèmes de détection de l'OTAN. Il y avait une interopérabilité avec l'OTAN qui était très forte. Il y a de toute façon une conscience à la fois d'une menace qui est importante et la conscience du fait que les pays nordiques seuls ne seront pas en capacité.
Je les imaginais pas seuls, hein, clairement. Évidemment, c'était en étroite collaboration avec l'OTAN, bien sûr, mais on pourrait imaginer quand même l'émergence d'un nouveau bloc régional, même si, évidemment, qu'il ne peut pas se penser sans cette articulation avec l'OTAN. Ça, bien sûr.
Il y a en tout cas eu une volonté forte de promouvoir justement l'expansion de l'OTAN sur les pays baltes et de faire des pays baltes, je dirais, le premier rideau défensif des pays nordiques. Ensuite, il y a effectivement dans dans la perception de la menace, une conscience qui est très très aiguë de la part de la Suède, qui de toute façon a, a un lien particulier avec la Finlande, et la Finlande est aussi sur un sentiment de menace très très élevé par rapport à la Russie. Elle vit dans l'ombre de la Russie, dont elle a réussi à se détacher qu'en 1917 et au prix de deux conflits pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qu'on a parfois tendance à oublier. Donc il y a une convergence stratégique qui peut être un facteur de rapprochement, mais il y a aussi une singularité suédoise en la matière. La Suède a une base industrielle et technologique de défense importante. Ça fait aussi partie, à un moment donné, de l'essor économique suédois, et ça a fait aussi partie dans la construction de l'alliance entre la social-démocratie, entre le monde ouvrier et l'aristocratie, à travers la neutralité d'une entente cordiale, on dira, sur ces questions de sécurité liées à la, justement à l'émergence d'une industrie de défense suédoise et une capacité de défense, pas autonome, mais en tout cas qui soit la moins dépendante de l'extérieur possible.
Johan Okand, tout dernier mot, il nous reste allez 30 secondes. Je le disais sur la Suède, enfin c'est tout à l'heure Barbara Kunz qui l'indiquait, il y a ce retour du service militaire qui est pas obligatoire mais qui avait été supprimé en 2010. C'est quelque chose qui est bien pris par la société, par l'opinion suédoise, ce retour du service militaire, on considère que c'est une bonne chose ? Johan Okand ?
Bon, j'ai pas d'idée très claire là-dessus pour vous répondre franchement, mais par contre sur ce point, il me semble que Cyril Coulet a tout à fait raison de souligner la place de l'industrie de l'armement suédoise, mais aussi norvégienne, il faut pas l'oublier, et qui rappelle que ces pays se sont aussi construits leur industrialisation sur ce et leur exportation sur cet aspect-là, tout en maintenant l'image extérieure de pays véhiculant en faveur à la paix au niveau international. Donc c'est quand même un des paradoxes ultimes qui reste très fort en Scandinavie.
Merci à tous nos invités, Barbara Kunz qui est avec nous par téléphone, Cyril Coulet, Johan Okand, merci à tous les trois d'avoir ouvert cette nouvelle série sur les pays nordiques, boussole de notre monde. On poursuivra demain, c'est avec ce groupe norvégien dont on va mettre les références sur la page de Culture Monde qu'on se quitte. Enfin, pas tout à fait, puisqu'il est 11h52, c'est l'heure de retrouver Brice Couturier, le tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Et c'est à une complète révolution mentale que nous appelle le biographe de Keynes, Robert Skidelsky, membre de la Chambre des Lords britannique, Brice.
Oui, l'économie, écrit-il dans un article publié sur Project Syndicate, a été de tous les temps la science consacrée à l'étude des moyens d'utiliser le moins de ressources disponibles en termes de travail, de capital et d'énergie afin de produire le maximum de biens et de services. Elle a donc été conduite par une recherche d'efficacité. Et c'est dans ce cadre qu'il faut comprendre ce que l'Américain Paul Samuelson, commentant David Ricardo, a baptisé la division internationale du travail. Le Britannique Ricardo avait écrit que chaque pays devait utiliser son avantage comparatif sur les marchés mondiaux et se spécialiser dans les secteurs de production où il était le meilleur. L'exemple devenu classique donné par Ricardo, qui écrivait au début du 19e siècle, portait sur la production comparée de vin et de draps. Même si le Portugal pouvait fabriquer sur son sol les draps qu'il importe aujourd'hui d'Angleterre pour moins cher que ceux qu'il achète aux Anglais, démontrait Ricardo, il aurait pourtant intérêt à consacrer ses capitaux disponibles à produire les excellents vins de Porto qu'il vend aux Anglais. Car c'est sur le vin qu'il est le meilleur. C'est sur cette théorie qu'est fondée notre mondialisation actuelle. En théorie encore, les technologies nouvelles qui permettent d'économiser du travail pour produire la même quantité de produits ou de services se traduisent par une amélioration de la productivité du travail. Pourquoi alors La plupart des économies occidentales et même chinoises connaissent-elles la grande stagnation de cette productivité qualifiée de stagnation séculaire par Larry Summers dans son fameux discours de 2013 devant le FMI?
Il faut changer de logiciel, répond Skidelsky, et mettre au cœur de la science économique d'autres concepts que ceux d'efficacité et de productivité, les remplacer par ceux de résilience et soutenabilité.
Oui, et ce pour trois raisons. D'abord parce que le prix des ressources disponibles sur la planète n'est pas suffisamment indicatif de l'état réel de ces ressources. Ce qui est bon marché aujourd'hui peut se révéler extraordinairement cher demain si la ressource tend à s'épuiser. Ensuite, parce que la crise sanitaire actuelle a mis en lumière la fragilité et la vulnérabilité des chaînes de valeur mondialisées. Nous avons en particulier réalisé notre dangereuse dépendance envers certains équipements médicaux fabriqués presque exclusivement en Chine. La division internationale du travail est une excellente idée en temps normal. Elle risque de se révéler désastreuse en temps de crise grave. Comme l'a écrit ailleurs Skidelsky, je le cite, « Les prévisions macroéconomiques finissent sur les rochers quand la mer n'est pas complètement calme. » Keynes a écrit aussi Skidelsky, s'occupait de la logique des choix en situation d'incertitude. Et c'est d'ailleurs ce qui l'a rendu keynésien. Enfin, la recherche d'efficacité à tout prix, qu'elle passe par la mondialisation et le séquençage optimal de la chaîne de valeur ou bien par l'automatisation de la production, se traduit par des disparitions d'emplois. Notre système économique est basé sur la consommation des ménages. Afin qu'ils puissent consommer, il faut donc encore qu'ils disposent de salaires. En tout cas, il y a un équilibre à trouver entre efficacité et soutenabilité. Comme le disait John Maynard Keynes, rappelle donc son biographe, l'avenir est incertain. Il n'y a donc pas de raison de considérer que les bonnes raisons que nous avons eues de faciliter le libre-échange et d'automatiser la production seront encore bonnes demain. Extrapoler à partir des conditions présentes pour tenter de prédire le futur est une erreur. Quelle place, en effet, faisons-nous aux événements imprévus, car imprévisibles, tels que les inventions nouvelles, les tournants politiques, les troubles sociaux, les guerres, les tremblements de terre et les crises financières. Il s'ensuit, conclut Skidelsky, que les décideurs politiques doivent changer de priorité. Il faut s'inspirer du principe du moindre risque de dommages causés, moins chercher à maximaliser les bénéfices et davantage à limiter les risques. Alors, vous me direz comment chiffrer ces risques, parce que c'est bien une question d'économiste. Eh bien, en se référant aux travaux du mathématicien russe Vladimir Mach, dit Skidelsky. Il a inventé un système ingénieux d'optimisation sous contrainte de risque. Il ne faut pas se cacher qu'une telle problématique, ajoute Skidelsky, nous conduira inévitablement à nous poser des questions très sensibles, et en particulier celle-ci. Jusqu'à quel niveau l'accroissement de la population mondiale est-elle réellement soutenable?
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr, mais aussi sur l'application Radio France. On vous retrouvera demain pour une nouvelle chronique en direct, cher Brice, mais dans quelques instants, c'est Olivia Gesbert et La Grande Table.
Fin d'année, offrez-vous France Culture, des philosophes amoureux, des animaux, les dernières nouvelles de l'univers.
France Culture, l'esprit d'ouverture.